1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rock and roll.
Sally can wait.
Rock and roll.
It ain't what they call rock and roll.
1, 2, 3.
Rock and roll. Rock and roll.
Rock'n'Roll Diaries, Pierre-Paul Durastanti et Guillaume Lacarrière vous accueillent dans leur machine à explorer le rock. Rock'n'Roll Diaries, c'est sur CFM Radio.
Eh bien, bonsoir. Bienvenue à la deuxième émission de Rock'n'Roll Diaries. C'est Pierre-Paul au micro avec Guillaume. Salut Guillaume.
Bonsoir. Bonsoir Pierre-Paul.
Bon, alors la dernière fois, à la première émission, on a fait une espèce de voyage temporel vers Woodstock. C'était le 50e anniversaire du célèbre festival. On continue notre voyage, on va 15 ans plus tard. Là, on a juste décidé de vous parler d'une année. C'est l'année 1984, qui est une année assez riche. On a eu d'ailleurs du mal à limiter notre sélection aux quelques morceaux qu'on va avoir le temps de passer pendant cette petite heure ensemble. Et pour commencer de la façon la plus simple possible, on a pris un morceau qui justement comporte en son titre l'année 1984, c'est Eurythmics. Et c'est un morceau qui a été écrit pour la bande originale du film 1984, d'après l'œuvre de George Orwell. C'est un des premiers gros succès de Eurythmics. Et ça s'appelle en fait Sex Crime 1984 étant le sous-titre. Et je te laisse le soin de nous lancer ça.
Vas-y toi Serge.
There's always someone
Et dis donc, mais ça envoie la sauce.
Quoi, Eurythmics?
Ma foi.
Évidemment que ça envoie la sauce. Hein. Tu crois que j'ai mis de la pop? Enfin, voyons.
Tout
si,
en
je mets un peu de pop. D'ailleurs, le morceau suivant, c'est de la pop. De la pop anglaise, parce que Eurythmics est un groupe anglais, était un groupe anglais. Lloyd Cole and the Commotions, qui est le prochain morceau, c'est aussi un groupe anglais. Alors, c'est un de ces groupes anglais très, très anglais, jeunes étudiants, avec du tweed et du mohair, des textes très intellectuels. Mais, pour une fois, Lloyd Cole, ça a vraiment eu du succès. C'est un... Le premier album, il n'y a quasiment rien à jeter. En plus, il y a une chanson à la gloire de la Deux Chevaux.
Et oui, j'ai entendu ça, oui.
Ouais, ouais, la Citroën, quoi. Donc, c'est pas celle que j'ai mis, bien que j'aime bien. J'ai mis la plus connue, celle qui a fait une espèce de mini-tube qui s'appelle Perfect Skin. Et qui est une... Ben, vous allez voir. C'est pas mal, Perfect Skin. C'est pas mal, le call.
Eh bien, voyons ça.
They're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down to size. Academia blues. Louise is a girl. I know her well, she's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl. And I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate. But then she's much more fun, and when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, you've got no sense of grace. Shame on me, just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary. And that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. She says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin. And she's sexually enlightened by cosmopolitan hand. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that's perfect skin. To look at the size of a family life. Pretty weird at times at the age of 10. She looked like Greta Garbo and I loved her then. How was she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up eight flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're down so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one.
Lloyd Cole, donc. Alors, on va rester en Angleterre et on va rester avec les jeunes groupes. Alors, les Smiths, je vais laisser Guillaume en parler, bien sûr, mais parce que c'est lui qui a choisi le morceau. Mais les Smiths auraient pu être les Rolling Stones, parce qu'ils avaient, leur Keith Richards, Johnny Marr, un guitariste étincelant et très inventif. Ils avaient Mick Jagger, enfin, ils avaient leur Mick Jagger avec Morrissey, mais malheureusement, c'est deux fortes têtes, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et ils se sont supportés pendant peut-être trois albums, et puis après, ça a explosé, mais ça a explosé en vol, quoi. Donc, je vais te laisser, présenter un petit peu plus ce groupe et éventuellement le morceau que tu nous as choisi.
Le morceau que j'ai choisi, donc, c'est This Charming Man, qui est issu de leur premier album éponyme. De 1984, alors si on parle des Smiths, c'est parce qu'on a du mal à se rendre compte en France de l'importance qu'a eu The Smiths en Angleterre. C'est vrai que c'est un groupe qui ne s'est pas bien exporté, contrairement à The Cure ou U2 par exemple, pour parler que d'eux. Mais on a du mal à se rendre compte que ça a vraiment été un événement, la sortie du premier album. et l'importance du groupe, l'influence qu'ils ont pu avoir. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, ils ont eu une existence assez éphémère, ils ont duré de 84 à 87 finalement. Et la reformation semble, elle est toujours attendue apparemment. Alors ça peut même proposer un sacré paquet de pognon, mais bon, apparemment ça ne suffira pas.
Apparemment donc, ils sont très très fâchés.
Pour l'amour de l'art, vraiment. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, hormis bon, comme tu l'as dit, le jeu très inventif de Johnny Marr, et aussi le lyrisme de Morrissey. C'est un chanteur qui est quand même très habité, à qui il arrivait même de venir sur scène avec un bouquet de glaïeul. C'est vraiment voilà, quelque chose d'assez particulier. Et écoutez, là, je pense qu'une écoute vaut tous les commentaires. Donc, extrait de leur premier album, This Charming Man, The Smiths. Des Charming Man. Je ne sais pas quel chiffon mettre ce soir pour sortir.
Écoute, je peux pas t'aider.
Quel délicieux.
Quelle
délicieuse parole. Voilà, donc c'était les Smiths. Et Pierre-Paul, donc tu as choisi maintenant de parler de Joe Jackson.
Ouais, alors Joe Jackson, c'est pareil, c'est encore en anglais. Après, on va un peu plus ouvrir, on va avoir pas mal d'Américains, de l'Irlandais et tout. Pour l'instant, on a fait, c'est vrai, un début d'émission très anglais. Alors Joe Jackson, c'est un type qui est apparu à la fin des années 70. Dans la mouvance un peu police, Elvis Costello, oui, ce genre de choses, là, ce qu'on a appelé la New Wave un peu facilement. Mais lui, il a très très vite brouillé les cartes. Il a fait un album un peu punk.
Luke Sharp, qui est excellent.
Qui est un album absolument excellent, ouais. Tout à fait. Ouais. Il a fait après, on va écouter quelque chose qui est beaucoup plus jazz. Il a fait des choses qui se rapprochaient de la soul. Il a fait un album quasiment de crooner américain. Il s'est rapproché du classique. Là, depuis quelques années, il s'est remis à faire des chansons plus, enfin, calibrées. C'est un drôle de mot avec Joe Jackson, mais disons plus pop. Voilà. Alors là, du coup, j'ai choisi une espèce de ballade très belle avec un joli solo de saxophone et tout. C'est mon côté un petit peu fleur bleue, j'avoue. Alors voilà. Oui. Alors la chanson, c'est « Est-ce que tu veux être ma numéro 2 ?» Alors voilà, le type, il se relève du rupture et il va dire à une fille « Est-ce que tu veux être ma numéro 2 ?» Ce qui est, à mon avis, le truc le plus tue l'amour qu'on peut dire à une nana. Mais bon.
qui ne tente rien à rien,
c'est ça, voilà. Won't You Be My Number Two, Joe Jackson, toujours 1984. Joe Jackson, bien lyrique. On va passer, on va complètement changer de genre, on va complètement changer de mood, d'ambiance.
Et de continent.
Et de continent. On part aux États-Unis, on part même sur la côte ouest des États-Unis, si je ne m'abuse, avec Husker Du. Et je vais m'arrêter là parce que c'est à peu près tout ce que je sais du groupe. Et donc je vais donc te laisser te charger de le présenter à nos auditeurs.
Oui, si je voulais vous parler de Husker Du, c'est pour expliquer qu'en fait, en 84, c'est aussi une date importante pour tout ce qui est au niveau du punk rock, avec une espèce d'ouverture qui se fait pour pas mal de groupes. On enlève un peu les œillères, ce côté un peu punk hardcore, toujours bas du front. Youskordius c'est un très bon exemple, puisque cette année-là, il signe un double album. C'est un format normalement qui était vachement réservé plutôt au rock progressif. C'est une hérésie de faire un double album pour un groupe punk. Et c'est ce qu'ils ont fait, en même en intégrant dans leur punk, quand même, parce que ça reste quand même sacrément bien remuant, des éléments psychédéliques, bruitistes. Et cet album s'appelle donc Zen Arcade. Il a eu une influence assez considérable sur la scène punk en Amérique comme en Angleterre. La même année aussi, donc ça c'est un groupe de Minneapolis. Donc on parle de Prince en 84 qui éclate avec Purple Rain et tout ça.
Et qui est de la même ville, ouais.
Et qui est de la même ville, du coup. Mais à Minneapolis, donc, il y a Youskordu aussi, qui bon, avec un succès quand même peut-être moins important, bien sûr, parce que ça reste un peu plus confidentiel, mais ça reste quand même aussi mythique. On compte aussi les Replacements, qui signent cette année à Let It Be, un superbe album aussi. Les Minutemen aussi, avec un double album, en réponse à un extrait de l'album que vous allez écouter maintenant, Zen Arcade. Les Minutemen aussi ont fait un double album. Voilà, donc on ouvre un petit peu nos œillères. En cette année 1984. Donc le morceau qui suit s'appelle Chartered Trips, c'est un morceau de Youskordu. Mais quelle énergie, mes aïeux!
Ah là là!
Ah, c'est Youskordu!
Ça m'a réveillé, hein!
Eh, n'est-ce pas?
Ouais!
Et oui, alors Youskordu, oui, donc 84. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'ils étaient signés sur le label SST, qui cette année-là aussi a signé donc, les Minutemen, comme je vous le disais tout à l'heure, et aussi un album assez fédérateur aussi, Black Flag, l'album My War, aussi, qui est un brûlot punk aussi.
Oui, le groupe d'Henry Rollins.
Le groupe d'Henry Rollins qui a fait date aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Alors là, on va un peu changer de genre. Là, on va d'abord rechanger de continent, on part en Irlande, on part écouter un peu de U2. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur U2, c'est un des groupes les plus connus au monde. Ça, on va passer un extrait de The Unforgettable Fire, qui est l'album presque du succès planétaire. Ça viendra en fait 2 ans plus tard avec The Joshua Tree, mais déjà, Unforgettable Fire, avec sa très belle pochette représentant un château en ruine en Irlande, a très très bien marché. Le premier morceau de l'album, c'était Pride, qui a eu un grand succès, à juste titre, parce que c'est une très très belle chanson que U2, qui tourne encore et qui a des tournées qui marchent du feu de Dieu, joue encore très très volontiers. Pride, U2, rien à rajouter. Alors, c'était bien, c'était U2. Bon, évidemment, c'est bien U2. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas grand-chose. Alors, après, on va revenir à un groupe un peu moins connu, mais très important, d'une certaine façon, parce que c'est les Pretenders. Pretenders, c'est un des premiers groupes de rock qui a été pris au sérieux avec une chanteuse. On avait déjà des chanteuses dans les groupes funk, dans les groupes folk, etc., etc. Mais pour le rock, c'est, et même encore maintenant, c'est toujours plus compliqué pour ces dames de s'imposer. Et Pretenders, ben, elle chante, elle est guitariste, c'est elle qui écrit tous les morceaux du groupe, il n'y a pas photo, c'est elle la leader. À l'époque, elle était maquée, si on peut dire, avec le chanteur des Kings, Ray Davies. Ça, c'est, ouais. Elle portait même son enfant quand elle a enregistré la chanson qu'on va écouter. Ça s'est mal terminé, disons. Mais ça a donné une très très belle chanson. Alors là, j'avoue, j'ai un peu triché. C'est Back in the Chain Gang. C'est un morceau qui est sorti en 45 tours en 1982. Mais elle l'a mis sur un album qu'en 1984. Donc voilà, j'ai triché.
Donc ça marche.
J'ai considéré que c'était une chanson de 1984. Tant pis. Donc voilà, les Pretenders, vous allez voir, c'est très très bien si vous ne connaissez pas.
Merci Chrissy Hynde,
oui. Alors là, on va à nouveau repartir vers des contrées un peu différentes. On va repartir à Minneapolis, donc la patrie de Oscar Dew, et on va aller voir son citoyen musicien le plus connu au monde, Prince, qui nous a quitté il y a quelques années. C'est 1984, c'est tout simplement l'année où Prince a explosé littéralement. Il avait déjà eu quelques petits succès, notamment avec l'album 1999. Mais là, c'est Purple Rain, le film. Moi, je m'en souviens parce que j'arrivais à Paris à l'automne 84. Et le premier truc qui m'a marqué, c'est que partout dans le métro, il y avait les affiches couleur pourpre, avec effectivement l'affiche du film, quoi. Prince en moto. Voilà. Il y a plusieurs morceaux qui ont eu beaucoup de succès sur l'album, notamment Purple Rain, qui est une magnifique ballade avec un solo hendrixien à la guitare. On oublie souvent que Prince est un guitariste de...
multi-instrumentiste.
Voilà, un multi-instrumentiste et un guitariste de première force. Alors j'ai mis une chanson plus courte et bien péchue, que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle tout simplement « Let's go crazy ». Voilà, on va y aller un peu, quoi.
Eh bien, allez, devenons fous.
Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. And if the elevator tries to reach for hell, that's a mighty long time. But I'm in town.
Mais ça, ça débouche les oreilles. Voilà.
Il faisait bien son malin, quand même.
Il faisait bien son malin, mais il jouait bien de la guitare. Voilà, bon. C'est tout. Il chantait bien. Alors, on va parler de quelqu'un qui sait aussi très bien faire son malin. Alors, c'est l'année 84, c'est une année qui a été marquée par d'énormes succès discographiques. Il y a des trucs qu'on n'a même pas passé. C'est le retour de Tina Turner dans l'album. Mm-hmm. Dans l'album, un succès planétaire. C'est
Frankie Goes to Hollywood.
C'est Frankie Goes to Hollywood. C'est Sade. C'est
Scorpion aussi. Avec
Scorpion, David Bowie. C'est la première année vraiment où, à mon avis, MTV a vraiment eu un impact important. Ouais. Et donc, on a vraiment. C'est d'une certaine façon, il y a une grosse commercialisation de la musique. Bon. On trouve des tas de morceaux sympathiques à écouter, et de bons albums, c'est pas la question. Et Springsteen, donc, Bruce Springsteen, dont on va écouter un morceau de l'album Born in the USA, c'est d'une certaine façon le summum absolu. C'est un des plus grosses ventes de l'histoire de la musique rock. C'est un album, il y a 12 titres, 7 sont sortis en 45 tours, Les 7 ont été classés dans le top 10 américain. Ça, ça n'a jamais été égalé. Il s'est permis d'envoyer sur les roses le président Reagan, qui n'avait visiblement pas écouté les paroles de la chanson Born in the USA, qui voulait en faire son hymne de campagne. C'est une chanson qui parle des vétérans qui reviennent de la guerre du Vietnam, qui sont mal intégrés, qu'on fout au chômage, qu'on exploite et tout. Donc c'était... Je pense qu'il n'avait pas écouté la chanson.
Beaucoup de gens pensent que c'est un hymne vraiment patriotique.
Alors non, pas du tout. Ouais. Springsteen est très certainement un patriote, comme beaucoup d'Américains, y compris de gauche. Mais justement, Springsteen est un Américain de gauche. C'est quasiment un communiste, même, pour les gens qui votent Trump. C'est quelqu'un qui a toujours suivi, en quelque sorte, la politique de façon importante, qui a soutenu Clinton, qui a soutenu Obama. Donc non, c'est vraiment pas un énervé, c'est pas Rambo. Contrairement à... L'imagerie de la pochette a évidemment contribué au truc. Il y a un drapeau américain, il y a lui en plus.
Une petite paire de fesses moulées dans un jean.
C'était l'époque où il faisait de la muscu, effectivement, donc le jean est moulant. mais en tout cas, j'ai pas voulu prendre les chansons qu'on entend le plus souvent. J'ai pris une ballade assez belle et d'une tristesse insigne aussi, qui s'appelle tout simplement Downman Train, c'est-à-dire le train qui va, on sait pas trop où, loin, quoi. Et c'est une belle chanson. Ça a été un des derniers singles classés de l'album, mais c'est vraiment, l'album entier est magnifique, quoi. Springsteen a beaucoup changé par la suite musicalement. Il a enchaîné par exemple par un album magnifique de chansons folk et tout, mais je pense qu'on retrouvera jamais un phénomène de succès dans le rock comme on a pu avoir.
Je pense que les gens viennent comprendre que tu aimes beaucoup.
J'aime beaucoup Springsteen.
C'est ton boss.
C'est mon boss.
Allez, on se l'écoute.
Down the Drain.
Ok.
Down that cross ties working in a rain. I don't feel
cool. Il était pas cool, mon petit morceau de Springsteen. Mais si, il était
très
cool.
Très bien.
Bon, alors, on est toujours tous ensemble sur CFM. Et je vais te laisser. Alors là, je vais me défausser sur toi, parce que c'est pareil, tu as choisi un groupe que je connais que de nom. Tu m'aurais dit, tiens, les Replacements, tu connais? Je dis, oui, je connais le nom. Voilà, et c'est à peu près tout, quoi. Donc, je vais te laisser un peu le présenter de manière un peu plus érudite que moi.
D'accord, mais si je t'en parle, si je veux vous en parler, c'est parce qu'en 84, on peut considérer qu'ils ont signé leur chef-d'œuvre qui s'appelle Let It Be. Tu reconnaîtras le petit clin d'œil. Voilà.
Non, non, c'est une chanson connue, Let It Be. Non, ça...
Tu vois pas un truc à l'orgue un peu.
Voilà. Peut-être.
Donc Let It Be, donc album des Replacements, et ce sont des kids de Minneapolis, une nouvelle fois comme Use Curdue et comme Prince, et qui cette année, comme Use Curdue aussi d'ailleurs, ont mis un peu d'eau dans leur vin, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est plus ou moins imagé, parce qu'en fait voilà, ce groupe avait vraiment un talent fou. Mais par contre, ils avaient un sacré penchant pour la boisson, ce qui fait qu'ils faisaient des concerts régulièrement catastrophiques et ils ont ruiné leur carrière finalement comme ça, quoi, par ce je m'en foutisme qui est très punk. Mais pourtant, ça cache quand même des pépites et puis surtout des capacités à pondre des chansons pop comme celle que on va vous passer tout de suite.
Mais ça, c'est le problème quand tu t'appelles les Replacements, quoi, les remplaçants.
Les remplaçants,
tu peux jamais devenir titulaire.
Ils étaient peut-être nés pour perdre finalement.
Voilà.
Mais au milieu donc de compositions punk vraiment assez bas du front, finalement le chanteur, surtout le leader, était capable de pondre des petites pépites pop. Et c'est ce genre de morceau qu'on va écouter maintenant. Il s'appelle Unsatisfied, sur l'album Let It Be des Replacements. C'est parti. Ouais, il peut être mignon finalement, ces gens.
Ouais, non, c'est bien, rien à dire. Bon, de toute façon, c'est pareil. Là, le morceau par lequel on va conclure l'émission, on avait tous les deux absolument envie de le mettre.
Ah oui, oui, oui.
Donc, je vais te laisser parler, parce que c'est pareil, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas pratiqué plus que ça. Donc, c'est Echo and the Money Man, c'est Killing Moon, le morceau. Je vais te laisser le soin d'en dire quelques mots, rappeler que eh bien, c'est notre deuxième émission sur CFM, et qu'on a été ravis de passer à nouveau cette heure avec vous. Et sur
okay, ce, oui.
Je vais te laisser finir.
On prend rendez-vous pour la prochaine fois.
Bah, on va peut-être
choisir une année au pif.
Oui, s'ils veulent encore de nous. C'est pas sûr, parce qu'on a été techniquement un petit peu limité cette fois.
Eh oui.
Voilà. Mais bon, allez.
Donc oui, on va terminer avec Echo and the Bunnymen, leur album Ocean Rain, qui sort en 84, qui est considéré comme le sommet de leur carrière. C'est-à-dire cette approche un peu de rock, un peu lyrique, avec des cordes cette fois-ci. Alors que c'est un groupe qui est issu du post-punk, donc beaucoup plus sec, beaucoup, des productions beaucoup plus minimalistes. Mais là, cette fois-ci, il y a de la corde, il y a des arrangements sublimes.
Oui, là, ils se sont rien refusés.
Ils se sont rien refusés. Et avec le chanteur, donc Ian McCulloch, qui est talentueux, mais aussi très mégalo, qui a considéré d'ailleurs que là, c'était le plus grand album de tous les temps qui allait sortir. Il en est toujours convaincu. Il est aussi convaincu d'être le meilleur chanteur du monde devant Frank Sinatra. Bon, ça, chacun se fera son opinion. Toujours est-il que le morceau reste quand même sublime. On termine sur ça, donc The Killing Moon. Pierre-Paul, à très bientôt.
Et, pareil,
et puis à bientôt aux auditeurs de CFM. Merci beaucoup. À bientôt. Give yourself to him.
Yeah.